Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Donald Trump avait déjà fort à faire avec les humoristes des talk shows américains et plus largement avec une bonne partie du showbiz. Et bien voilà désormais que s'ouvre une autre fronde contre le président des États-Unis. Cette fois, ce sont les footballeurs qui sont à la manœuvre. Plusieurs dizaines d'entre eux ont mis le genou à terre ce week-end au moment de l'hymne américain. Une manière, semble-t-il, de protester contre le chef de l'État qui s'en était violemment pris quelques heures plus tôt à un des leurs. Alors, si Donald Trump a connu un état de grâce au moment de son élection, ce qui n'est même pas certain, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cote de popularité en berne, une des pires dans l'histoire des présidents américains. Ce qui ne semble pas le tourmenter. Au contraire, plus Trump est critiqué, plus il en rajoute, comme si l'animosité qu'il provoque lui servait de carburant. C'est vrai sur le plan national, ça l'est tout autant sur la scène internationale. Pour son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, le président américain s'est surpassé, avec comme point d'orgue de ce moment belliqueux, la promesse de détruire totalement la Corée du Nord. Une incartade de plus à mettre au bilan de ce mandat qui n'en est qu'à son début. Alors y aura-t-il bientôt l'incartade de trop ? Trump, la coupe est pleine ? C'est la question que nous posons ce soir à nos trois invités. Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste notamment des questions juridiques aux États-Unis. Vous avez publié chez Dalloz en 2015 « La Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie ». Pour discuter avec vous, Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'IFRI, Institut français des relations internationales, qui vient de publier son rapport annuel. C'est le rapport, le dossier Ramsès, qui titre cette année sur la guerre de l'information. On peut y lire une de vos contributions. Et puis, notre troisième invitée, elle est au téléphone depuis Washington. Il s'agit de Célia Belin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheuse invitée à la Brookings Institution. Vous avez co-dirigé aux éditions du CNRS, c'était l'an dernier, les États-Unis dans le monde. Alors, avec vous trois, je voudrais qu'on évoque au-delà du bilan des premiers mois de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ce que peut être peut-être l'état, on va dire, d'exaspération à la fois de la société américaine, à la fois la réaction des contre-pouvoirs s'il y en a, et puis comment et ce que peut faire la communauté internationale par rapport aux déclarations très intempestives du président américain. Je voudrais commencer par une question d'ordre un petit peu général. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées l'an dernier au moment de la campagne électorale, en se disant si Trump arrive à la présidence, ça va être terrible. Craintes qui ont été formulées à nouveau lorsqu'il a été élu, lorsqu'il a été investi. Laurence Nardon, quelques mois plus tard, est-ce que vous diriez que ces craintes étaient totalement justifiées ou est-ce que vous voyez des raisons d'être un peu rassuré par rapport à ce qu'on nous promettait ?
Alors, oui, là, moi, je pense qu'il y a un tableau qui reste aujourd'hui extrêmement complexe de ce qui se passe aux États-Unis et notamment du jugement de l'opinion sur Trump. Alors, on va y revenir pendant l'émission, mais il est évident qu'il y a des choses sur lesquelles il a pris des actions qui seront de longue durée assez graves. La nomination d'un nouveau juge très conservateur à la Cour suprême, ça c'est parti, le personnage est là pour 30 ans. Ces régulations sur l'environnement seront diversement suivies aux États-Unis, mais il y a quand même des choses qui peuvent être, des régulations qui peuvent être supprimées. Il y a des choses comme ça qui sont réelles et qui se passent. Son discours sur les races, l'image de la démocratie américaine à l'étranger, c'est évident que tout cela est très négatif. Et pourtant, quand on va aux États-Unis, on continue à rencontrer des républicains qui vous brossent un tableau très différent de ce qu'on lit, nous, dans le New York Times, dans le Washington Post, qui tire à boulets rouges sur le président en permanence. Des républicains qui vous disent « mais non, mais l'économie va très très bien, le taux de chômage est très très bas, la croissance est en hausse, l'indice de confiance économique des ménages est redevenu positif depuis novembre 2016, donc depuis l'élection, après avoir été négatif pendant Obama, pendant 8 ans, depuis la crise de 2008 ». On a vraiment l'impression d'une réalité qui est appréciée de manière totalement manichéenne et contradictoire par l'opinion. Et on a vraiment l'impression de passer de l'autre côté du miroir quand on parle à des gens d'un bord ou de l'autre du spectre. Et sur les questions économiques, il faut se rendre à l'évidence que ça va plutôt bien. Donc, que conclure ?
De quel côté du miroir est-ce que vous observez la situation américaine, Anne Desine ?
Alors, si l'on commence par les questions économiques, effectivement, les États-Unis vont bien. Ils vont bien avec tous les bémols d'une société très dure où on se fait licencier du jour au lendemain et où certaines personnes travaille quelques heures par semaine pour un salaire minimum qui est parfois inférieur à 10 dollars dans certains États. Mais, et c'est là qu'on voit bien cette polarisation, et dans un journal récent, le mot était même tribalisme, c'est-à-dire selon qu'on est démocrate ou républicain, on va dire oui, c'est grâce à l'effet Trump, il a rendu confiance à l'Amérique, mais les démocrates disent mais non, c'est enfin le bilan d'Obama qui nous a sorti de cette crise terrible, qui a pris les mesures qu'il fallait, et donc le taux de croissance des États-Unis, nous le devons à Obama. Et tout est pareil. Et je pense que c'est vraiment cette division de la société en deux blocs, plus que ça n'a jamais été le cas, qui est en partie le fait des réseaux sociaux, ça c'est clair, mais aussi des talk-shows, les talk-shows conservateurs, qui n'ont pas besoin d'avoir deux invités ayant des vues équilibrées. Donc la personne qui regarde ces émissions, qui regarde Fox News, à plein temps toute la journée, entend des choses positives sur le président et une façon de regarder la réalité qui est pro-Trump. Et de l'autre côté, on a l'inverse. Donc en fait, c'est très difficile de faire un bilan parce que la population est vraiment scindée. Chacun ne veut pas changer de camp et chacun affirme que, quoi que fasse le président, il ne changera pas d'avis.
Célia Belin, est-ce que vous partagez ce constat d'une présence de deux blocs très, très stables, disons? Et est-ce que ce sont des blocs qui sont relativement équilibrés ou bien est-ce que aujourd'hui, on va dire, les anti-Trump sont peut-être quand même un peu plus nombreux que ses partisans?
Bien sûr, je partage totalement ce point de vue d'une Amérique divisée, mais elle n'est pas forcément divisée démocrate contre républicain, elle est aussi divisée au sein du camp républicain, puisqu'on a une minorité, mais très active et très vocale, de Trumpiens, une base électorale qui a voté pour Donald Trump, qui continue de le soutenir. Il a un taux d'approbation de 40% des Américains et là-dedans, il y a un très grand nombre, bien sûr, de républicains, mais pas seulement, puisque il y a aussi une partie des républicains qui se retrouvent très anti-Trump, en partie sur la manière dont il a de se comporter vis-à-vis des médias, vis-à-vis du gouvernement fédéral ou encore vis-à-vis sur les thèmes de politique étrangère. En politique économique, il remplit très directement le programme économique du Parti républicain et donc à ce titre, il satisfait à peu près tout le monde, en tout cas sa base républicaine. Mais ce qui est vrai, c'est que Donald Trump n'a pas déçu d'une certaine manière depuis qu'il est arrivé. Il a effectivement tenu les promesses qu'on imaginait, les promesses tout à fait négatives de relations exécrables avec les médias, de confrontation en permanence avec les autres politiques, un travail d'affaiblissement général du pouvoir fédéral, une politique étrangère nationaliste et vindicative. Bref, il est tout à fait ce qu'on envisageait de lui en novembre et à ce titre, il est donc apprécié par sa base et détesté par une partie de l'Amérique.
Est-ce que ça n'est pas ça finalement justement l'élément le plus surprenant aujourd'hui? Et là aussi je vous pose la question à toutes les trois, Laurence Nardon, Célia Belin et Anne Desine, c'est-à-dire qu'il soit conforme finalement à ce que l'on pensait qu'il serait au pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas tellement finalement modifié sa façon de faire. On pouvait aussi penser qu'à l'épreuve du pouvoir, Donald Trump allait un petit peu s'assagir, communiquer autrement que via Twitter. Là manifestement, il est resté tel qu'en lui-même.
Alors, à mon avis, de ce que j'observe, ça dépend des sujets. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels il est resté fidèle à ce qu'il annonçait pendant sa campagne, c'est-à-dire une politique très populiste. Tout ce qui touche à l'immigration et tout ce qui touche au commerce et à la fin du libre-échange. Il est pour un retour au protectionnisme, donc un populisme de gauche contre les élites et un populisme de droite contre les étrangers. Là-dessus, il n'a pas vraiment changé. En revanche, moi j'ai l'impression, pour compléter ce que disait Célia Belin, que sur les questions de politique étrangère, on l'a vu continuer sur certains points à être le populiste nationaliste, égoïste qu'il avait annoncé vouloir être pendant sa campagne, et sur d'autres points, peut-être de semaine en semaine, écouter les conseillers qu'il a nommés autour de lui, et qui sont, sur les questions de politique étrangère, défense, sécurité, des républicains plus traditionnels, c'est-à-dire des gens qui vont plus croire à la diplomatie, plus croire à l'importance des institutions internationales. On l'a vu, par exemple, l'exemple de cela, c'est sa politique sur l'Afghanistan. Pendant toute sa campagne, il a dit, nous n'avons rien à faire là-bas, c'est un nouveau Vietnam, partons, on ne fait que perdre. Et là, il y a quelques semaines, il a annoncé que finalement les États-Unis allaient rester à minima dans le pays 10 ans, et ça c'était très très significatif. Mon instinct me pousse à partir, et généralement j'écoute mon instinct, mais en l'occurrence j'ai écouté mes conseillers qui me disaient qu'il fallait rester parce que finalement c'était la moins pire des solutions.
Bon, ça c'est plutôt rassurant, Anne Desine, ce que nous dit Laurence Nardon. C'est d'ailleurs qu'au-delà d'une forme qui est toujours très intempestive, très outrancière, Donald Trump est quand même capable parfois d'écouter les conseils, les bons conseils qu'on peut lui donner.
Oui, on nous dit de plus en plus de ne pas faire attention à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va continuer à tweeter, il va continuer à utiliser des formules inacceptables dans des enceintes comme l'ONU, parler de Rocket Man, l'homme à la fusée. Ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Mais le principe de réalité, surtout en politique étrangère, prend le pas. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup critiqué l'OTAN, puis finalement, il s'est rendu compte que l'OTAN, c'était un petit peu utile. Il a terriblement critiqué l'ONU, et la semaine dernière, au discours à l'Assemblée générale de l'ONU, il a quand même vanté les valeurs de l'ONU. Il a dit oui, mais enfin, bon, cette institution a du potentiel. Donc pour le moment, elle ne fait pas son boulot, elle coûte trop cher, mais quand même, elle va dans le bon sens, donc moi je vais l'aider, et une fois que j'aurai fait ma petite réforme, l'ONU fonctionnera bien. Donc oui, il écoute un petit peu ses conseillers, mais je pense que c'est vraiment un principe de réalité. On peut quand même aussi noter que beaucoup de ses conseillers sont des militaires, ce qui est quand même un paradoxe et un petit peu embêtant dans un système démocratique, puisque théoriquement, tout ce qui est défense doit dépendre des civils et non pas directement des militaires. Or, il a beaucoup d'admiration pour les militaires, et il a autour de lui le général Kelly, qui est maintenant chef de cabinet, qui continue et qui joue un rôle important, et le général McMaster. Donc on a quand même une politique étrangère qui certes parfois annonce que l'option diplomatique reste sur la table, mais l'option militaire n'est jamais très loin. Là encore, la semaine dernière à l'ONU, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a dit « Bon, on continue, mais moi je suis prête à donner le dossier aux militaires. » C'est-à-dire que la diplomatie est à égalité, dans la meilleure des hypothèses, avec le militaire.
Ce qui est plutôt nouveau, ça, justement, pour les États-Unis ?
Au moins dans l'expression, les États-Unis ont toujours insisté sur le fait que la défense devait être entre les mains des civils. La guerre est trop importante pour être confiée aux militaires. Et là, nous avons non seulement la guerre, mais la politique étrangère et beaucoup de sujets qui sont aux mains des militaires. Des militaires qui sont des gens très très bien. Ces gens-là, autant celui qui a démissionné il y a quelque temps après avoir passé 3 semaines à son poste était quelqu'un de peu recommandable, autant les deux noms que j'ai cités, McMaster et Kelly, sont des gens bien. Je crois que c'est indéniable. Mais peut-être sont-ils un petit peu pro-guerre.
Célia Belin.
Oui, je voulais revenir un petit peu sur le style de Donald Trump, parce qu'il y a quelque chose sur lequel il n'est pas revenu, c'est son style, comme le disait Laurence Nardon. Il se permet d'aller très très loin, et le problème c'est quand la forme joue sur la substance, c'est-à-dire que lors de son speech à l'ONU la semaine dernière, il a insulté de Kim Jong-un et en l'appelant Rocket Man, et puis surtout il a promis de détruire totalement la Corée du Nord si celle-ci venait à attaquer les États-Unis. Et en fait, ce genre de vocabulaire, apparemment, il y a eu plusieurs médias qui ont dit que ce vocabulaire n'était pas dans le discours préparé par les conseillers de Donald Trump, mais que c'est Donald Trump lui-même qui l'a rajouté. Donc on voit bien que les aspects provocateurs de Donald Trump, voire insultants, voire on l'appelle bully, c'est-à-dire qu'il harcèle ses compétiteurs, sur une scène internationale, peut avoir un effet tout à fait délétère, tout à fait dangereux, d'escalade des tensions, en l'occurrence entre les États-Unis et la Corée du Nord, voire plus. Et donc là, il y a un problème lorsque le style Donald Trump rencontre le fond de dossier très dangereux.
Alors justement, sur la dangerosité, Célia Belin, de Donald Trump, Hillary Clinton était interviewée dans le journal Le Monde ce week-end, et les journalistes lui posent cette question. Pensez-vous que le président Trump est dangereux ou impuissant? Et la réponse d'Hillary Clinton, alors qui n'est pas une pure experte évidemment, puisqu'elle a un discours très politique, très politique, mais elle dit ceci. Voilà, elle n'est pas neutre. Je pense qu'il est plus dangereux qu'impuissant, car un président des États-Unis a beaucoup de pouvoir. Comment est-ce que vous répondriez là aussi à cette question ? Trump, dangereux ou impuissant, Célia Bollin ?
Là où elle a tout à fait raison, c'est que le président des États-Unis n'est pas impuissant. Il a énormément de pouvoir, ne serait-ce que parce que il possède une tribune à partir de laquelle il peut faire des déclarations. Donc, comme on l'a vu à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a une répercussion mondiale et qui peut entraîner un effet sur ses adversaires et ses rivaux et donc faire escalader les tensions. Donc c'est évident que c'est un homme puissant et donc le fait de le considérer dangereux, c'est parce que on considère que sur un certain nombre de dossiers, il prend des risques peut-être inutiles en allant à la provocation. Il a été défendu par certains analystes en disant c'est exactement comme ça qu'il faut faire avec la Corée du Nord, il faut taper du poing sur la table. Mais on peut aussi considérer que ça n'est pas le chemin de la diplomatie que de faire cela. Sur deux autres dossiers, je voulais le dire, il est particulièrement virulent sur le dossier du climat où il a décidé, il a annoncé que les États-Unis se retireraient de l'accord de Paris sur le changement climatique, et puis le dossier iranien où il a fait preuve à plusieurs reprises, il a annoncé que les États-Unis dénonceraient l'attitude de l'Iran, dont il considérait que l'Iran ne remplissait pas ses promesses de cet accord sur le nucléaire. Et donc, à ce titre, il y a également danger que cet accord tombe. Et là, évidemment, la France et autres Européens sont vent debout contre cette position américaine. Mais donc, le président américain a du pouvoir et on ne peut pas le négliger.
Laurence Nardon.
Oui, sur l'Iran, il y a effectivement beaucoup à dire, mais juste pour compléter ce que dit Célia Bollin, effectivement, le discours du président a un impact et donc c'est dangereux s'il se met à partir dans les cordes, ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir et même avant. Et en même temps, il faut quand même voir à quel point, je trouve, les contre-pouvoirs institutionnels et même plus généralement de la société civile fonctionnent depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette constitution que les pères fondateurs avaient rédigée en 1787, elle a été conçue pour Trump, contre Trump même. Puisqu'en fait, les pères fondateurs ont écrit ce texte pour entraver le pouvoir d'un homme qui arriverait à la présidence pour devenir dictateur. C'était vraiment quand on lit The Federalist, qui est les textes de l'époque d'explication, vraiment leur objectif. Et aujourd'hui que Trump est au pouvoir, il trouve devant lui alors les contre-pouvoirs propres à sa propre administration, c'est-à-dire que les ministères, les départements en dessous de lui peuvent mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas notamment de l'EPA sur les questions d'environnement. Mais il y a le Congrès qui ne réussit pas à voter Obamacare, ça si c'est pas un contre-pouvoir, je sais pas ce que c'est. Il y a la pyramide judiciaire qui a entravé jusqu'à présent, qui va à nouveau examiner son décret
anti-immigration,
Muslim ban. Il y a la structure fédérale du pays qui fait que les États et les villes ne sont pas obligés de suivre la dérégulation fédérale sur les questions d'environnement. Et puis, complétons le tableau avec la presse, qui est quand même extrêmement efficace. Et puis, la société civile américaine, qui est vraiment, Tocqueville le disait déjà, un exemple merveilleux de conscience citoyenne et de réaction à ce que fait Trump. Les 40% qu'il soutiennent, bien entendu.
Anne Desine, la présidence Trump permet d'apporter la preuve de la solidité des contre-pouvoirs, des nombreux contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis.
Oui, alors j'ai été très optimiste au début et j'ai beaucoup appris sur ce sujet. Et tout ce qu'a dit Laurence est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les États disent « mais nous allons continuer la politique environnementale ». Et ils ont intenté des actions en justice contre le décret fermant l'accès du territoire américain aux ressortissants d'États musulmans, etc. Simplement, et mon livre sur la Cour suprême tombe bien, aux États-Unis, c'est un pays de common law, tout finit par se jouer devant les tribunaux. Donc pour le moment, les contre-pouvoirs sont efficaces parce que les individus, les groupes intentent des actions en justice et pour le moment, les victoires sont plus nombreuses. Que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière d'immigration, que ce soit dans d'autres domaines. Mais at the end of the game, à la fin, ça va arriver devant la Cour suprême. Et la Cour suprême, maintenant, c'est 5 conservateurs, dont un tout jeune qui a été nommé, donc parle tout jeune, enfin 46 ans, ce qui pour la Cour suprême est très jeune, puisqu'il y reste jusqu'à 80 ans. Et donc, il est à craindre que beaucoup de ces décisions, qui auront certes été bloquées, qui auront été retardées pendant 1, 2 ans, 3 ans peut-être, à la fin, vont être validées par la Cour suprême.
Et mais dans ce cas-là, Anne Désiné, est-ce que l'histoire de la Cour suprême, justement, apporte de l'eau à votre moulin, apporte à cette crainte, ou bien est-ce que, malgré tout, une fois que les juges sont nommés, ils ne feront pas, ils sont quand même pas capables de faire preuve d'un minimum d'indépendance?
Alors, c'était le cas jusqu'à il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on a vu des juges qui étaient nommés par des présidents républicains qui, au fil des années, prenaient des positions progressistes. Et à la limite, le juge Kennedy, qui est encore à la Cour, qui a été nommé par un républicain, sur certains sujets, comme le droit des homosexuels, par exemple, prend des positions progressistes. Simplement, les républicains, tellement fâchés de ce qui s'est passé dans les années 60, ont créé une société qui s'appelle The Federalist Society, qui est en fait un vrai vivier de juges extrêmement conservateurs, et les présidents piochent dans ce vivier. Donc on sait que ces juges ne vont pas évoluer, ils vont continuer à défendre ces positions conservatrices. Et donc la Cour suprême, qui pendant longtemps a joué d'un prestige, d'une aura considérable, parce qu'elle était à l'abri de ces luttes partisanes, est maintenant décrite comme une institution aussi partisane que le Congrès. Et donc, il est à craindre que ces décisions vont arriver devant la Cour. Et le seul espoir, c'est que le président de la Cour se rende compte que si il y a trop de décisions à 5-4 qui démantèlent tout l'acquis Obama, le pays tourne à la guerre civile. C'est-à-dire que vraiment, la révolution sera dans la rue à cause des décisions de la Cour suprême.
Il y a donc ce contre-pouvoir essentiel qu'est le contre-pouvoir judiciaire, contre-pouvoir politique avec le Congrès, et puis un parti des Républicains qui n'est pas non plus toujours le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport à ce que décide Trump. Et puis ce contre-pouvoir que vous évoquiez, celui de la société civile, celui des médias, et dont on a régulièrement des échos justement lorsqu'il y a par exemple des cérémonies de remise de prix comme les Emmy Awards. C'était la semaine dernière, le Grand Prix de la télévision américaine, où chaque intervenant, semble-t-il, se sentait presque obligé d'avoir sa petite pique contre Donald Trump.
We know the biggest TV star of the last year is Donald Trump.
I want to thank Trump for making black people number one on the most oppressed list.
They also celebrate people who frantically race across international borders and those who can scale walls really, really quickly. In other words, the president's worst nightmare.
In 2017, we still refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
Truly amazed how many black people are here.
More great roles for women, please.
Yeah.
Thank you.
And last but certainly not least, my LGBTQIA family. I see each and every one of you.
Voilà, petit extrait des Emmy Awards qu'on a repris de l'émission de TMC Quotidien. Laurence Nardon, ce qu'on a entendu, c'est pas pro-Trump, on est d'accord, c'est le showbiz américain donc qui critique un certain nombre de ces mesures. On fait pas la traduction littérale, mais c'est l'idée qui est derrière qui est intéressante. Le showbiz avait quand même été très critiqué au moment de la campagne de la présidentielle américaine pour avoir pris fait et cause pour Hillary Clinton. Est-ce que le fait comme ça d'asséner régulièrement que Trump est un mauvais président, ça ne peut pas finalement contribuer aussi à renforcer ceux qui sont des partisans de Trump?
Il y a un côté effectivement un peu contre-productif dans leur attitude. En même temps, comme le disait Anne Désine, les gens vont pas changer d'avis. Ils sont vraiment. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est que ça reflète d'une certaine manière la politique. L'attitude qui a été celle du Parti démocrate et de la campagne Clinton, et qu'on leur reproche beaucoup, qui est l'une peut-être des raisons de l'échec d'Hillary Clinton, c'est le fait que les libéraux, comme on les appelle aux États-Unis, c'est-à-dire que nous dirions les gens de gauche, portés par le Parti démocrate, depuis des années, depuis vraiment même des décennies, se sont adressés de manière assez clientéliste à des portions de l'électorat. Donc il y avait le discours pour les Noirs, le discours pour les Latinos, le discours pour les homosexuels, pour les femmes, etc., porté par Obama à l'époque, et puis ensuite par Hillary Clinton. Et finalement, ce qu'on reproche à ce discours, c'est que d'abord, il y a des gens qui sont pas traités dans le discours, c'est les messieurs blancs d'un certain âge,
Tant surtout s'ils n'ont pas d'emploi.
Tant pis pour eux. Oui, surtout s'ils n'ont pas diplômé. Et que, du coup, il n'y avait plus de discours unificateur de la population américaine. C'est-à-dire que le Parti démocrate, pendant la campagne de 2016, on le lui reproche, n'a pas porté un discours s'adressant à l'Amérique avec un grand A qui serait l'ensemble de tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et du coup, ces pauvres personnes oubliées de la mondialisation qui habitent dans la Rust Belt, c'est-à-dire ces endroits où les usines ont fermé les unes après les autres, des gens qui sont victimes de cette épidémie d'opioïdes dont on n'a pas encore parlé, oui. Mais qui est, vous savez, il y a beaucoup de suicides, d'overdoses de blancs dans ces régions parce qu'ils sont trop désespérés. Eh bien, ces gens-là ne se sont plus sentis écoutés et Trump est apparu comme leur champion, littéralement.
Et le Parti démocrate, Celia Boehlin, n'a pas pris conscience, ou c'est peut-être encore un peu trop tôt, étant donné l'énorme déception qui a été celle de la défaite d'Hillary Clinton, pour essayer justement de modifier un petit peu l'approche qui pouvait être celle de ce pays.
Pour le moment, le Parti démocrate reste encore un peu sous le choc de son échec de l'année dernière. Il est encore profondément divisé. Il faut se souvenir qu'il y avait eu des primaires pour l'élection de l'année dernière qui ont particulièrement divisé le Parti démocrate dans l'opposition entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et une partie de la base électorale de Bernie Sanders continue à considérer que c'est lui qui aurait dû être désigné pour porter un message de, justement, non pas un message de politique d'identité, comme l'a souligné Laurence Nardon, mais ce message de populisme économique que promeut Bernie Sanders, qui répondrait donc à l'appel de ces oubliés de la mondialisation, les classes moyennes inférieures, la classe ouvrière, à laquelle le Parti démocrate donc ne s'adresse plus. Et aujourd'hui, en fait, le Parti démocrate a du mal à savoir vers quel chemin il va se diriger. Donc, on a des porte-voix de cette gauche qui s'adresse aux classes populaires à travers encore Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren. Mais on a du mal à voir, aucun des deux, à mon avis, sera en position pour 2020 d'être vraiment candidat. Et puis le Parti démocrate oscille encore donc entre cette gauche de la gauche et puis le centrisme d'un Obama ou d'une Hillary Clinton. Ce sera décidé au cours des prochaines années. Mais il y a un peu un problème de renouvellement des têtes et des générations, puisque pendant toute l'ère Obama, en réalité, on n'a pas vu émerger de grandes figures de la gauche américaine, puisque c'était tout l'ère était un peu occupé par cette famille Obama dans la Maison Blanche, et que le Parti démocrate a perdu énormément de place sur le terrain, en perdant plus de 900 sièges dans les législatures d'État au cours de l'administration Obama. Et donc, on n'a pas vu une génération de leaders de gauche émerger aux États-Unis comme on a pu le voir du côté républicain avec la vague Tea Party. Donc, le Parti démocrate aujourd'hui est en reconstruction.
Alors, si c'est pas trop du côté de l'alternance politique, il faut miser pour une fin de mandat de Donald Trump qui sera probablement candidat à sa réélection, s'il va au bout de ce premier mandat. Mais justement, va-t-il aller au bout de ce premier mandat, Anne Desine? On a beaucoup évoqué la possibilité d'une destitution, notamment dans le cadre de l'enquête entre les Trump, des relations entre les Trump et puis la Russie. Ça, c'est quand même quelque chose qui avance et qui ne sera pas tributaire de la décision de la Cour suprême.
Non, tout à fait. Mais donc, la mise en accusation, ça ressemble à une procédure juridictionnelle, mais c'est politique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait d'abord mise en accusation par la Chambre, puis destitution par le Sénat, il faut que beaucoup de républicains lâchent Trump. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Trump est mauvais pour leur avenir politique et mauvais pour l'Amérique. Mais pour le moment, ils ne sont pas très patriotes, ils pensent surtout à leur avenir politique. Et ce n'est pas le cas. Il y a seulement au Congrès un certain nombre de grandes figures, alors que ce soit John McCain ou Susan Collins au Sénat, qui osent s'opposer, par exemple, à la énième mouture de projet de loi pour remplacer, enfin, repeal and replace, abroger et remplacer le projet de loi santé Obama. Mais dans l'ensemble, les républicains avalent couleuvre sur couleuvre. Et si certains d'entre eux ont dit des petites choses un peu méchantes au moment où Trump a refusé de condamner clairement les suprémacistes blancs, ils ne font pas grand-chose. Alors, ce qui peut déclencher, c'est l'enquête du procureur spécial. Donc le procureur spécial, essentiellement, il enquête sur deux choses. la fameuse affaire russe, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait eu contact, coopération, collusion entre l'équipe de Trump et la Russie? Et puis, est-ce que l'Empire Trump, est-ce que ça pose des problèmes? Et alors, un procureur spécial ne dit pas ce qu'il fait. Donc la seule chose que l'on sait, c'est grâce aux perquisitions qu'il peut mener et grâce aux personnes qui sont convoquées pour communiquer, pour répondre aux questions de l'équipe du procureur spécial, qui d'ailleurs a pris des gens extrêmement forts en matière de corruption, en matière de conflits d'intérêts, en matière d'espionnage dans son équipe. Donc on peut imaginer que des proches de Trump soient inculpé, et en particulier Paul Manafort, dont il est maintenant presque avéré qu'il a violé la législation sur le lobbying pour des États étrangers. Il devait le divulguer, il ne l'a pas fait.
Pardonnez-moi, rappelez-moi qui est Paul Manafort.
Alors, Paul Manafort a été brièvement le directeur de campagne de Trump avant qu'il ne soit démissionné parce que justement, on trouvait qu'il était un petit peu trop en contact avec la Russie. Et qu'il
c'est pas évident de retenir les noms de l'équipe de Trump parce que comme ça bouge beaucoup.
Mais bon, en fait, on se rend compte que le procureur spécial est en train de se rapprocher de 3-4 personnes. Flynn, celui qui a dû démissionner. Manafort, celui qui a aussi quitté la campagne, tous parce qu'ils ont omis de divulguer des rapports extrêmement réguliers avec la Russie. Et puis, il y a le fils de Trump qui a rencontré des hiérarques russes en espérant avoir des nouvelles compromettantes sur Hillary. Et puis, il y a le gendre Jared Kushner qui, lui, avait la haute main sur le site Internet, sur la campagne réseaux sociaux. Et peut-être va-t-on se rendre compte qu'il a travaillé avec Facebook ou en tout cas avec les Russes pour que les Russes puissent alimenter Facebook. Donc, si le procureur trouve ce type de choses, on peut penser qu'il y aura... Alors, est-ce que ce sera une inculpation de Trump? Est-ce qu'à ce moment-là, les Républicains vont comprendre que peut-être, comme ça a été le cas pour le Watergate, parce que pour le Watergate, les Républicains ont voté la mise en accusation? C'est beaucoup de points d'interrogation. Mais ce n'est pas pour demain.
En tout cas, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de leviers au niveau national, mais au niveau international, Laurence Nardon, c'est-à-dire, quand on parle de contre-pouvoir aux États-Unis, les contre-pouvoirs, aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale pour essayer de contrôler, de limiter un petit peu le Donald Trump. Ça peut être quoi? Est-ce que c'est le cadre de l'ONU? Est-ce que c'est la relation transatlantique qu'il faut quoi? Alors qu'il faut modifier, au contraire qu'il faut renforcer? Est-ce que c'est la coopération qui doit être absolument promue, d'autant plus que c'est Donald Trump qui est à la tête des États-Unis? On a du mal aujourd'hui à entendre un discours peut-être très, très clair et commun sur le sujet.
Oui, effectivement, de toute manière, la société internationale n'est pas régie par une constitution rigide, donc on n'a pas moyen de faire plier Trump. Entre États, on fait la guerre ou on discute. C'est comme ça que ça se passe.
On essaie bien de le faire pour d'autres États. Pour les États-Unis, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de pression qui serait une pression commune. Pourquoi pas même de sanctions diplomatiques, sanctions économiques. Pourquoi pas? Est-ce que c'est quelque chose de totalement inenvisageable s'agissant des États-Unis?
Je pense qu'aujourd'hui, imposer des sanctions aux États-Unis me semble tout à fait hors de discussion. Mais ce qu'on peut faire en revanche, c'est discuter avec lui. Et je crois que notre nouveau président Emmanuel Macron a fait cela. L'invitation au 14 juillet était un très beau coup pour établir des relations, alors peut-être pas de d'amitié, mais enfin en tout cas des relations de respect mutuel, peut-être unilatéral entre les deux hommes, puisque Trump est revenu enchanté de sa visite à Paris et notamment du défilé militaire qui manifestement lui a beaucoup plu. Et d'une certaine manière, on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y ait, vous savez, un couple Merkel-Macron qui jouerait, comme on dit dans les séries américaines, à good cop, bad cop.
Voilà, c'est-à-dire le gentil flic et le méchant flic.
Voilà, c'est-à-dire celui qui menace et qui est un peu ferme, et puis celui qui, au contraire, cherche à discuter et à faire avancer l'autre personne. C'est la nature même de la diplomatie que d'essayer de discuter avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop éventuellement, ou qu'on prend pour un fou avec lequel on n'est pas d'accord, pour essayer de le faire évoluer. Et clairement, c'est ce que Macron a dit, notamment sur les questions climatiques. Il a essayé de le... Alors, sans succès jusqu'à présent, mais il essaye de le faire changer. C'est ce qui, à mon avis... la seule chose à faire.
Il faut la méthode forte ou la méthode douce avec Donald Trump, ou bien une alternance entre les deux méthodes, Célia Belin?
C'est une bonne question. Pour le moment, personne n'a trouvé la méthode avec Donald Trump, clairement, puisque ses plus proches conseillers ont très souvent démissionné. Personne n'arrive vraiment à rester auprès de Donald Trump et à trouver la méthode pour le gérer, ni de près ni de loin. Emmanuel Macron, pour le moment, s'en tire bien, c'est-à-dire que il a choisi le pragmatisme, il a choisi de considérer ce que le nouveau président pouvait apporter à la France ou aux Européens de positif, par exemple une coopération sur la lutte antiterroriste, par exemple un nouveau discours sur l'autonomie stratégique européenne, puisque les États-Unis veulent se distancer des intérêts européens, et bien c'est aux Européens de se défendre tout seuls, de s'organiser. Tout ça, c'est un discours à la fois américain et français qui va bien ensemble, qui fonctionne bien. Et après, sur les éléments de discorde, donc comme le climat, le nucléaire iranien ou d'autres, eh bien, il faut pragmatiquement discuter. L'idée de sanctions contre les États-Unis est tout à fait farfelue. On n'en est pas du tout là. Au jour d'aujourd'hui, les plus inquiets sont peut-être les Européens, puisqu'ils ont été tellement proches des États-Unis qu'ils ne savent pas forcément aujourd'hui sur quel pied danser, quelle est la nature de leur relation. Mais les autres grandes puissances du monde ne sont pas si mécontentes. La Russie, la Chine, finalement, apprécient le discours de souverainisme et de nationalisme du président américain, puisqu'en fait, ça les conforte dans leur propre vision du monde. Donc, on n'a pas aujourd'hui de front international anti-Trump. Les autocrates du monde entier l'apprécient bien, puisqu'il ne met pas en avant les questions de droits de l'homme, comme ont pu le faire ses prédécesseurs, ou de démocratie. Et puis, il a simplement des relations très conflictuelles avec un certain nombre d'États, Iran, Corée du Nord en tête, bien sûr, mais qui sont pas de mesure à l'ostraciser sur la scène internationale. Il n'y a pas de contrepoids à attendre, à mon avis, à Donald Trump sur la scène internationale, autre que un discours différent, et qui est le discours européen en faveur du multilatéralisme, en faveur de la responsabilisation sur le changement climatique, par exemple. Et ça, pour le moment, c'est à la fois Emmanuel Macron et Angela Merkel et d'autres qui essaient de faire vivre ce discours.
Anne-Désine, personne n'a intérêt aujourd'hui à remettre en cause ce qui reste quand même le leadership américain.
Alors, c'est la première puissance militaire, diplomatique, économique, ça c'est indéniable. Alors, certains pays paniquent, l'Europe, sur la question de l'OTAN, etc., mais d'autres États se réjouissent. Et la Russie n'est pas vraiment vainqueur, puisqu'en fait, malgré l'opposition de Trump, le Sénat, enfin le Congrès, a voté l'interdiction de lever les sanctions et de nouvelles sanctions contre la Russie. En revanche, pour moi, le grand vainqueur de toute cette affaire, c'est la Chine. Parce que quand Trump s'est retiré du TPP, le traité transpacifique, qui avait été mis sur pied par Obama justement pour faire contre la Chine, pour empêcher que la Chine ne monopolise l'Asie du Sud-Est, c'est la porte ouverte à la Chine. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'à Davos, le président chinois avait dit « Oh mais moi, je suis pour le libre-échange et vous pouvez compter sur moi, rejoignez le flambeau de la Chine ». Et d'ailleurs, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont rejoint le fameux flambeau de la Chine. Deuxième exemple, l'environnement. Donc Trump se retire de l'accord de Paris et immédiatement les Chinois prennent le leadership énergétique. Alors les Européens aussi, les États américains qui décident de continuer à mettre en œuvre les obligations, les engagements pris à Paris. Mais donc la Chine à chaque fois prend des petites parts de marché. Et si on prend l'exemple iranien, bon, de toute façon c'est un accord multilatéral, donc que les États-Unis se retirent, ça fait du mal aux États-Unis. Les autres partenaires vont continuer. Et le ministère des Affaires iranien a expliqué, de toute façon, nous, on respecte la loi. Et ce n'est pas parce que l'administration Trump va refuser de certifier que ça nous pose un problème. Parce que, de toute façon, qui doit certifier, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est une dévalorisation de la parole américaine, de l'image américaine. Et cela prendra sans doute un certain temps avant que cette parole américaine soit de nouveau respectée comme elle a pu l'être à d'autres époques.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Anne-Désine, Célia Belin, je rappelle que vous étiez au téléphone depuis Washington. Et merci Laurence Nardon. Cette émission, vous pouvez la réécouter pendant Non, vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà,
Et la podcaster pendant un an.
Merci Arnaud Laporte. Vous pouvez également nous écrire si vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé. Cette émission, elle a été préparée par qui ? Par Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani. Je sens que vous avez une question à me poser, Arnaud Laporte.
Mais quel sera donc le sujet du grain à moudre demain ?
Eh bien, je vais vous répondre. La police de proximité peut-elle prévenir le terrorisme ? Ce sera à partir de 18h20.